TV vous présente Parole de femme, le rendez-vous des femmes avec Annabelle pour vivre sa foi au quotidien.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femme. Cette semaine, nous parlons du couple et nous sommes avec notre invité, Monsieur Yanis Gauthier. Bonjour. Lui, je le ferai jusqu'à vendredi.
Tu as bien raison, Annabelle.
Tu vas bien, Monsieur. Yanis, ça se passe bien pour toi?
Très bien.
Excellent. Bah, en tout cas, nous, on est très contentes de te recevoir. Et comme on l'a dit hier, je crois que ton partage de ton point de vue d'homme va éclairer beaucoup de femmes. Parce qu'hier, tu nous l'as dit, quelquefois, nous, les hommes, nous ne nous exprimons pas. Et tu t'es fait un porte-parole, j'espère, juste et fidèle. Donc, si, messieurs, vous avez des recommandations, des réclamations à faire, adressez-vous directement à monsieur Yanis Gauthier.
Aider pour eux. Hein.
Mais c'est bon, c'est bien.
Je pense que les époux, ils ont écouté l'émission, elles ont dû préparer quelque chose de bon le soir, petit repas, petit quelque chose de particulier pour honorer leur mari. Ils en ont besoin quand même. Hein? Alors... Ouais, dur, nous, quand même.
Non, c'est bien. J'aime que tu sois là pour
avocat défenseur.
Pour oui, être un porte-parole. Tu connais, tu parles de ce que tu connais, les hommes. Donc c'est excellent.
Cœur d'artichaut.
On ne va pas trop loin. La victimisation n'est jamais la solution, tu le sais.
Je victimise pas, je dis simplement les choses.
Et tu nous l'as raconté. Ah bon. Ça fait plus de 20 ans que tu es mariée avec ta femme Manu et comme on l'a dit aussi une héroïne de la foi qui a cru, qui a prié, qui s'est battu pour ton salut. Et ensemble, vous avez cheminé aussi spirituellement. Et aujourd'hui, c'est une femme de l'ombre qui te soutient énormément et fidèlement.
Et ma lumière.
Et oui, bah, elle est dans l'ombre, mais dans la lumière, oui.
C'est ma lumière. Voilà. Femme de l'ombre, mais ma lumière.
Oui, bon, comme si là, j'avais insulté quasiment. Non, alors, j'ai beaucoup de respect pour elle.
De faire de la poésie.
Et donc, arrête. Donc, pour en revenir, en plus, ça fait 28 ans que vous êtes ensemble, donc le couple...
21 ans.
Ah oui, mais ça fait 28 ans. Donc, tu as beaucoup de choses à dire sur le coup parce que tu as appris beaucoup, beaucoup de choses. Et aujourd'hui, tu vas, on va revenir un petit peu en arrière. Tu vas nous partager le mauvais modèle dans lequel tu as grandi et qui aurait pu vraiment venir détruire ton mariage. Parce que notre passé, en fait, va avoir, a des incidences sur notre vie. Et il y a des incidences qu'on va découvrir seulement dans le cadre du mariage. On va voir qu'il peut y avoir des séquelles. Il peut y avoir des mauvaises habitudes, il peut y avoir des mauvais plis, des peurs qui ont pu s'installer et qui, dans le mariage, vont pouvoir ressurgir. Mais nous voulons le dire dès le début de l'émission, le Seigneur est capable de tout guérir et est capable de tout restaurer, même les pires histoires. Et sincèrement, Yanis, ton histoire était une histoire qui... Je pense pas que beaucoup de gens aient pu te dire en te voyant, étant plus jeune, cet homme saura construire un foyer heureux et équilibré, et ce sera un bon époux et un bon mari. C'était pas forcément ce qui était, ce qui coulait de source, mais pourtant Dieu l'a fait. Et tu vas pouvoir nous dire dans quel contexte tu as grandi.
Alors c'est un contexte difficile, pas de repère, un père absent puisque mon père était en Côte d'Ivoire et les quelques brides de relations que j'avais avec lui. Il me montrait l'image d'un homme qui travaillait dans les boîtes de nuit et avec tout ce que cela incombe. Donc ça n'a jamais été un père présent, un père qui me prend, qui va faire une partie de football avec moi, qui me donne de l'amour, de l'attention, de l'affection, qui finalement me met aussi en sécurité. Non, j'ai pas eu d'image de père. Ma mère, pareil, elle m'a abandonné à la naissance. J'ai eu quelques brides de relations avec elle, petit, et puis après, longtemps plus tard, j'ai pas eu l'image d'une maman, une mère qui aime, une mère qui est là quand je suis malade, qui me donne de l'amour, de l'affection, de l'attention, qui est à mon écoute, qui m'aide à faire mes devoirs. J'ai grandi dans un foyer où c'est ma belle-mère qui faisait office de papa et de maman. Et ma belle-mère avait été aussi abandonnée par mon père. Elle avait deux enfants. Donc c'était une femme brisée dès le début et qui a refoulé un peu les infidélités de son mari sur moi, ce qui fait qu'elle m'a fait la misère. Elle m'a pas donné d'amour. Donc C'était très, très difficile.
Il y a eu beaucoup de violence aussi.
Beaucoup de violence, maltraitance physique, psychologique, où vraiment j'ai été rabaissé, quoi. Rabaissé, t'as un bon à rien, t'es minable, une erreur de la nature. Bref, je grandis avec tout ça. Donc forcément, l'image de la famille est complètement explosée, même inexistante. Après, quand je me suis marié, en fait, il y a une facette de ma personnalité que mon épouse ne connaissait pas. Mm-hmm. C'est-à-dire que je me marie, mais à reculons. C'est-à-dire, je regarde en arrière, je vois ce que ma mère est devenue. Ma mère ne s'est jamais remis du départ de mon père. Elle s'est jamais remis. Elle est morte dans des conditions très, très difficiles. Vraiment difficiles. Seule, dans sa chambre. Et je peux pas m'engager. J'ai peur d'engager mes émotions. J'ai peur de m'engager dans une relation, même si je suis marié. Mais voilà, c'est pour moi cette relation, elle va durer, mais elle durera le temps que Dieu veut. Mmh. Et je sais pas ce que sera fait de demain. J'ai tellement subi d'échecs que je vis un peu dans le sentiment de malheur. Le malheur aujourd'hui il est plus là, mais demain il va venir. Voilà, le bonheur c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Le bonheur c'est éphémère. Donc ma femme même, elle m'aime, elle me donne de l'amour, elle me donne tout ce que j'ai pas eu, et je vois aussi au travers de son attitude qu'est-ce que c'est une mère. Quand je la vois avec ses enfants, j'ai dit, mais c'est ça une maman. Parce que j'avais pas l'image d'une mère, mais ça fait rire, mais on n'est pas maman, on devient maman. Et ouais. Tout comme on n'est pas mari, on devient époux. Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc moi, je suis époux, mais je suis pas encore un époux. Donc il faut que je m'engage. Mais je m'engage en reculant. J'essaye de construire sur les cendres de mon passé, d'avancer en regardant les rétroviseurs de mon arrière-plan, quoi. Et je m'attends à un moment donné à ce que ça pète. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre société, 45% des couples divorcent. Le divorce, ça touche partout. Hein. L'Église, il y a des gens qui divorcent. On voit des mères qui viennent avec leurs gamins, des papas qui ne sont plus là. Bref, le divorce, il est partout. Et même les jeunes ne veulent plus s'engager dans les voies du mariage. Ça fait peur, le mariage. Aujourd'hui, on a l'ère du pacte, de la facilité. Engagement sans vraiment s'engager. Chacun garde ses biens. C'est plus vraiment un engagement profond où on va devenir une seule chair. Hein. Donc il y a des facilités, et quelque part ces facilités, c'est pas des réponses franchement qui viennent de Dieu, parce que Dieu veut qu'on soit unis pour les bons, pour les mauvais jours. Donc il y a toutes ces réticences-là qui font que j'ai peur finalement d'aimer, de peur d'être trahi, d'être déçu. Donc je préserve mon amour, je n'ose pas donner de l'amour, ou je le donne de manière à compte-gouttes. Et finalement, je me bloque, quoi. Je me bloque. Et puis, il y a cette autre réalité en tant que père. J'ai peur. J'ai peur. Honnêtement, j'ai peur. J'ai peur parce que j'ai l'image d'un père. Et en fait, je peux pas m'accrocher à cette image. Et souvent, mon épouse, quand je me mettais sur le canapé, je pleurais. En fait, je pleurais parce que c'était un défi qui était tellement énorme. Et puis, je me sentais tellement impuissant. Et puis il y avait mon passif qui je mérite pas, quoi. Je mérite pas d'être heureux, je mérite pas d'être un père, je mérite pas d'être un mari, je mérite pas l'amour que tu me donnes, je mérite pas tout ça. Il faut que je suis tellement en fait la poisse, le malheur, il fait partie de mon ADN. Je m'attends à quelque chose là, il faut qu'il se passe quelque chose, ça peut pas bien se passer. J'ai toute ma vie j'ai souffert, il y a la souffrance, ça va revenir. Et quand je pleurais sur le canapé, ma femme venait souvent me voir, elle me disait: tu sais, Yannis, je t'ai pas épousé parce que t'étais le meilleur ou sur des compétences que tu n'avais pas. Je t'ai épousé parce que tu es l'homme que Dieu a mis à mes côtés. Et elle me disait, je connais ta vie, mais je sais une chose, si Dieu est avec nous, tu vas devenir un mari, tu vas devenir un père, tu vas y arriver. Et ça, c'était parfois comme des paroles pour me dire, Yannis, n'aie pas peur de m'aimer. Prends un exemple, hein, moi j'étais alcoolique. Un alcoolique, tu touches pas sa bouteille. Tu vois, tu touches pas, tu touches ma bouteille, t'auras un problème avec moi. Je me souviens une fois, j'avais mis la bouteille sur la table, ma femme est venue, elle a pris la bouteille. Et mon réflexe, c'était de me lever, je voulais reprendre ma bouteille. Pourquoi tu prends ma bouteille? Elle me dit parce que je t'aime, parce que je veux faire ma vie avec toi, parce que t'es mon mari, parce que je veux pas que ça te tue. Ah, si. D'habitude, on a toujours mis des bouteilles sur la table. Tu me l'apprends par amour. Par amour. Et en plus, tu me dis quelque chose qui m'amène à réaliser qui je suis aujourd'hui, quoi. Ouais, ma vie, elle est pas derrière. Ma vie, elle est pas dans les ruines de mon passé. Ma vie, elle est devant. Et aujourd'hui, avec Dieu, je peux construire quelque chose. Il y a une parole dans Jérémie 29, verset 11, où il est dit, car moi, l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. À un moment donné, je réalise que, ouais, avec Dieu, tu peux t'en sortir, tu peux réussir, tu peux construire un foyer stable, tu peux y arriver, il va t'aider. Mm-hmm. Parce que le fondement, finalement, de notre relation, c'était l'amour. L'amour qu'on avait l'un pour l'autre, l'amour qu'on avait pour Dieu. Et à partir du moment où on a l'amour pour Dieu, tout devient possible, finalement. Mm-hmm. Tout devient possible.
Je me souviens quand tu étais venue une fois dans Bonjour chez vous, dans la rubrique famille. T'avais partagé que tu regardais La Petite Maison dans la Prairie quand tu étais plus jeune.
Famille Ingalls.
Oui, avec Charles. Est-ce que tu peux me dire pourquoi est-ce que tu regardais, explique-nous pourquoi et comment tu regardais La Petite Maison dans la Prairie étant plus jeune.
C'était la famille modèle. Famille modèle. Encore, c'est une image de la famille modèle parce que dans la vie de tous les jours, apparemment, c'était pas comme ça. Charles, il n'était pas ce qu'il était.
Oh, on ne va pas rentrer là-dedans.
Non, mais il ne faut pas aller là-dedans,
par exemple. On ne va pas là-dedans. Non, okay.
Faut pas
on reste.
Charles Ingalls, à la fin.
Non, mais. Non. Charles Ingalls, c'est Charles Ingalls. On ne cache pas le mythe.
Mythe ou réalité. Mais bon, après. Non, mais c'est l'image que ça te renvoyait de la famille.
Tu as vu le père. Un mec extraordinaire. Une mère. Tu rentres chez toi, elle a préparé à manger.
Mais toi, tu regardais ça, t'avais quel âge?
Moi, je devais avoir... Je regarde encore. Faut pas mentir sur le paro, le plateau parole de femme.
T'as hésité. Oh non.
Qu'est-ce que tu fais, Yanis? Ah, tu regardes encore.
Là. Mais à, quand, à quel âge, quand tu étais plus jeune, à quel âge tu regardais...
À partir de 6 jusqu'à 14, 15 ans. Quoi.
Et ça te faisait rêver.
Et ça me marquait. C'était vraiment... Caroline, c'était la mère que j'aurais aimé avoir.
C'était un réconfort de voir un vrai modèle que tu n'avais jamais connu. Ouais.
J'avais envie de mourir, en fait. J'avais envie de mourir.
Dans ton livre, tu racontes qu'en plus, pour regarder La Petite Maison dans la Prairie, tu n'avais même pas d'électricité chez toi.
Je me branchais dans chez le voisin ou dans la cave, ou j'allais dans les supermarchés où ils vendaient des télés. Et puis, je regardais derrière la vitre.
Oh. Ok, c'est vraiment, c'était ça. Et là, t'allais pour regarder La Petite Maison d'après, parce que ça te nourrissait. Ça.
Je m'évadais, en fait, comme un jeune qui prend un casque, qui écoute une musique, ne me parlait pas, je suis dans mon monde. Mm-hmm. En fait, moi, je regardais La Petite Maison d'après, et après, je me mettais sous une couverture, je voulais dormir. Et pas me réveiller, je voulais mourir, pour mettre fin à mon calvaire. Parce que ma belle-mère, c'était pas Caroline. Mm-hmm. Non, pas du tout. Et puis... En fait, un jour, Dieu m'a donné un rêve, tu auras une famille, et puis avec la vie que j'ai menée, ce rêve, il est complètement parti. Mmh. Et puis un jour, j'étais attablé comme ça, et là, j'entends Dieu m'interpeller. Tu vois, quand tu étais enfant, j'ai mis une parole sur ton cœur, je t'ai dit que je te donnerais une famille. J'ai regardé ma femme, qui est meilleure que Caroline. Hein.
Pas de pression.
C'est une actrice, Caroline.
C'est ça, Manu, c'est une vraie.
Regardez Charles, en l'occurrence moi, le vrai bonhomme. Le père qui travaille dur pour ses enfants. Mm-hmm. Puis j'ai regardé nos 6 enfants.
Répète-le, parce que peut-être quelqu'un s'est dit, j'ai pas bien entendu.
J'ai regardé nos 6 enfants. Et je me dis, tu vois, Yanis, t'as peut-être vécu dans pas mal d'impossibilités, mais Dieu t'a donné la force de réaliser ce qui, à tes yeux, te paraissait impossible. Mm-hmm. C'est tellement beau de vivre avec Dieu. Mm-hmm.
Dans un petit moment d'émotion, après une petite maison dans la prairie et le fait que Dieu t'ait parlé et que finalement t'aies pu l'accomplir. Mais on va revenir quand même entre temps parce que il y a beaucoup de divorces comme tu disais, mais parce que aussi il y a beaucoup de blessures du passé qu'on n'arrive pas quelquefois à guérir ni à identifier. Mmh. Comment est-ce que toi t'as pu tu disais tu pleurais sur ton canapé, ta femme venait te voir, mais comment est-ce que t'as réussi à guérir? Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie pour que tu arrives à surmonter toutes ces peurs et cette angoisse que le passé revienne?
Alors, j'ai eu beaucoup de marques blessures psychiques, puis j'ai eu beaucoup de blessures physiques par ma vie. Je ne vais pas te faire un tableau, mais J'ai été brûlé quand j'étais enfant. J'ai reçu une casserole d'eau chaude. Ma belle-mère m'a mis un gant. Elle voulait pas me conduire à l'hôpital. Le gant, il est resté accroché à mon torse. Le lendemain, il fallait gratter cette brûlure. J'ai une cicatrice là. J'ai pris 5 coups de couteau. J'ai pris des balles dans l'épaule, dans le pied, des coups de coude là. Bref, quand je vais au médecin, il me demande si j'étais militaire. Vous avez fait la guerre, monsieur, quand il voit mon truc. Tout ça pour te dire, c'est pas pour faire l'apologie de la violence, mais pour te dire que fut un temps, et même après ma conversion, pour chaque marque psychique ou physique, pour moi, il y avait un désir de vengeance, il y avait une souffrance, il y avait une blessure, il y avait une plaie ouverte. Une plaie ouverte. Et quand je voyais, par exemple, ma brûlure, je punissais ma belle-mère. Quand je voyais, en fait, une marque, une cicatrice, c'était un nom, c'était une adresse, c'était quelque chose. C'était une offense. Et ma femme, elle est là. Des fois, elle comprend pas pourquoi je suis dans un état bizarre. Parce qu'en fait, je suis en train de ruminer ce qu'on m'a fait. J'ai envie de punir la personne. Je suis pas dans un schéma de pardon. Donc, ces plaies ouvertes là, ça me fait mal, quoi. Vis-à-vis de mon père, vis-à-vis de ma mère, c'est vrai, tout ce que j'ai vécu, c'est de votre faute. Vous avez pas été là pour moi. Bref, c'est dur à encaisser, c'est dur à accepter. Et j'ai dû pardonner. Dieu m'a conduit sur le chemin du pardon. Pour chaque plaie, chaque blessure, j'ai dû pardonner. Pardonner pour être guéri, pour être restauré, et pour enfin arrêter aussi de polluer la vie de ma femme. Parce que ma femme, finalement, il y a quelque chose qui faisait partie de sa vie, c'est l'acceptation. Tu vois, elle acceptait mon histoire. Elle sait que c'est un écorché de la vie qu'elle a dans ses mains. Tu vois, elle sait que je suis un blessé. Elle a accepté mes blessures. Mais par contre, moi, je n'avais pas le droit de construire notre relation sur ces blessures. Parce que c'était toxique. C'était pas bon. C'est pas agréable pour elle. Tous les jours, il y a 5 ans, on m'a blessé. Il y a quelqu'un qui m'a fait ça. Regarde ma belle-mère, regarde ce qu'elle m'a fait. Oh, on est aujourd'hui. Et puis, il faut regarder demain. Il faut avancer. Elle a été super parce que j'étais quelqu'un de traumatisé. Mais tu peux pas t'imaginer, Annabelle. Tu sais, depuis qu'on est enfant, chaque individu emmagasine psychologiquement toutes les blessures, tous les traumatismes. Moi, je me souviens, par exemple, ma belle-mère, quand elle faisait la vaisselle, ne t'avise pas de mettre une fourchette. Quand je mets une fourchette, je prends une claque. Une fourchette dans la vaisselle, c'est une claque. Donc, je pouvais rester derrière elle. Elle était au lavabo avec mon assiette, comme ça, pendant 20 minutes. J'attendais qu'elle finisse, puis je venais, je lavais mon assiette. Ça, je l'avais gardé. Et je me rendais même pas compte à quel point j'étais traumatisé. Ma femme faisait la vaisselle, et ben j'attendais derrière avec mon assiette. Puis un jour, elle me dit, mais pourquoi tu attends, pose ton assiette, tu t'as rien à craindre. Mais des fois, c'était vraiment vraiment compliqué. Donc chemin de pardon, chemin de libération, chemin de restauration. Et puis, à un moment donné, je comprends aussi qu'il faut tourner la page et il faut avancer. Donc, c'est ce qu'on a fait. Dieu écrit une nouvelle page, des projets de Dieu dans notre vie. Et finalement, je veux pas aussi, j'ai pas voulu être un obstacle entre mon père, ses petits-enfants, entre ma mère et ses petits-enfants. De par le pardon, je leur ai ouvert la porte de la réconciliation. Au sein de notre foyer. À cause de ça, j'ai pu voir mes parents une fois dans ma vie. J'ai vu qu'une seule fois mon père et ma mère, une seule fois ensemble. Ça a duré 2 heures, mais c'est grâce au pardon. Mes enfants ont pu voir leur grand-père à l'église. Ça, c'était juste extraordinaire. Moi, quand je voyais mon père en Côte d'Ivoire, c'était en boîte de nuit. Et grâce au pardon, je le vois non seulement à l'église, mais sous mes yeux, il va donner sa vie à Jésus. C'est pas beau, ça? Donc, parfois... je ne vais même pas dire que c'est un sort, parce que ce n'est pas le mot. Mais parfois, il y a des gens qui sont enfermés dans une pseudo-fatalité. On m'a jeté un sort, j'ai une malédiction, il n'y a que des divorces chez moi, il n'y a pas de réussite, on ne s'épanouit pas dans notre couple, il y a de l'infidélité, il y a des choses mauvaises. J'ai la poisse, quoi. Non. Dieu a des projets.
En fait, c'est ça, c'est que ta vie, Anis, démontre vraiment la puissance de l'œuvre de la croix, la puissance de qu'est-ce que Jésus a accompli, la puissance du sang de Jésus. Et c'est plus fort que les sorts, c'est plus fort que toutes ces choses. Et vraiment, j'écoute ta vie et je trouve ça magnifique. Et pour avoir côtoyé beaucoup de gens dans ma vie, je vois des gens qui ont eu un passé difficile comme le tien. Et ils acceptent Jésus comme sauveur, mais ils s'en sortent jamais. Et donc, est-ce que tu dirais la différence entre toi, vraiment, qui a tourné la page? Est-ce que tu dirais vraiment que la clé, c'était le pardon pour la restauration dans ta vie? Parce qu'on peut avoir Jésus-Christ dans notre vie, avoir cette espérance de la vie éternelle, mais vraiment demeurer dans le passé, demeurer dans les blessures et pas faire marche vers l'avant, vers le futur, et toujours demeurer et jamais s'en sortir vraiment, jamais se sortir de son passé. Mais tu sembles vraiment, ta bouche parle de ce que Jésus a fait et de la liberté qu'il t'a accordée. Donc, on voit vraiment qu'il y a eu un avant, il y a eu un après.
Mm-hmm. Oui.
Est-ce que le pardon, ça serait vraiment comme ce que tu...
Ben, c'est une clé pour la guérison, mm-hmm. pour la restauration. Ça, c'est un fait. Accepter Jésus, c'est laisser Dieu changer sa vie. Mm-hmm. C'est comme le mariage. Si tu te maries, tu ne veux pas changer, ce n'est pas la peine de te marier. Non?
Ben, oui.
Mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui acceptent Jésus, non, mais qui ne changent pas.
Tu te maries et tu étais célibataire, tu te maries pour une vie à deux. Maintenant, la vie, elle va changer. Mm-hmm. Tu ne vis plus pour toi, tu vis pour ton épouse et mm-hmm. vice-versa. Puisqu'on ouais. parle de mariage, c'est pour ça que je t'ai posé la question.
Oui, mais j'ai bien compris, Alice.
Mais j'ai envie aussi que chaque histoire est différente, en fait. Et c'est important lorsqu'on réalise qu'on est dans des cycles comme ça, qui ne sont pas très bons, en fait, de démasquer ce qui nous dérange. Et c'est ça que je veux dire aux gens aujourd'hui. C'est que pour Yanis, il a eu ses blessures. Et derrière ses blessures, comme il dit, il y avait des noms, il y avait des adresses. Il y avait un passé lourd derrière. Et quelquefois, il y a des personnes qui ont aussi vécu des choses, mais qui n'arrivent pas à les démasquer, en fait. Et c'est ça aussi l'œuvre de Jésus dans notre vie. C'est que Jésus, à la croix, il a démasqué les autorités, les forteresses, oui. les raisonnements. Il les a dépouillés à la croix. Et ça, c'est par là que ça commence, cette délivrance.
C'est vrai ce que tu dis. Je suis tout à fait d'accord. Mais je ne peux pas occulter le fait qu'il y a des gens qui donnent leur vie à Dieu, mais qui continuent à vivre comme ils vivaient avant.
C'est ça, c'est des
forteresses. En fait, c'est triste d'être blessé. Mais parfois, il y a des personnes qui existent au travers de leurs blessures.
C'est ça.
Ouais, c'est pour ça que,
oui. Elles ont l'impression que si Dieu les guérit, elles n'existeront
plus.
C'est
fini, ouais, c'est vrai.
Et donc, elles préfèrent vivre avec leurs blessures. Quand tu les écoutes, j'ai été blessé. Mais il y a combien de temps? Il y a 10 ans. Tu vas à l'église, tu laisses pas l'Esprit de Dieu te parler. Tu laisses pas Dieu venir te guérir. Tu vis ton schéma de vie antérieure. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu ne veut pas faire de ses enfants des victimes. La parole de Dieu, dans Luc 4, verset 18, quand Dieu dit qu'il vient pour guérir les cœurs brisés. Et en fait, il y a plein de bénédictions qui s'attachent à notre appartenance. Dieu nous donne la paix, Dieu nous donne la joie. C'est pas des choses qui dépendent de la réalité. C'est divin, ça. La paix de Dieu, elle nous garde de l'inquiétude. La joie de Dieu, elle nous permet de vivre et d'être heureux, même lorsque parfois ça va pas. Mais parfois, il y a des gens qui préfèrent vivre dans la tristesse. Quel est le plaisir pour une personne de retirer un plaisir dans la tristesse? Il y a pas de plaisir dans la tristesse.
Exactement.
Moi, j'ai pas de plaisir à faire souffrir ma femme à cause de mes problèmes. À un moment donné, il faut arrêter. Je lui dis, j'ai vécu ma vie d'hier, je suis pas responsable de tout. Mais mes enfants, je veux pas en faire des victimes à cause de mes blessures.
C'est
je veux pas confier mes fardeaux à mes enfants. Donc, à un moment donné, il y a quand même, bien sûr, la part de Dieu, et Dieu est toujours disponible à agir dans notre vie, mais il y a une autre part. Il y a une autre part. Et au-delà de la théologie, Mathilde, puisque tu me posais la question, c'est, à un moment donné, je vais devant Dieu. Mais Père, pardon. Pardon d'avoir bloqué tes mains. Parce que les mains de Dieu, elles agissent. Mais parfois, c'est nous qui empêchons les mains de Dieu d'agir.
C'est ça.
Je préfère garder nos blessures. Seigneur, je me repens et je te demande pardon et je veux me laisser faire par toi. Tu ne peux pas vivre pour Dieu si tu ne lis pas sa parole, si tu ne vas pas à l'église, si tu ne te laisses pas faire par Dieu. Non.
Oui, c'est ça. C'est cet abandon dont on a...
Il y a des gens, ils viennent avec des fardeaux à l'église. On fait un appel, Jésus-Christ a dit, donnez-moi vos fardeaux. Elles viennent, elles déposent les fardeaux. Mais quand elles repartent, j'ai oublié mon fardeau.
C'est ça.
Mais c'est terrible.
Ouais.
Exactement. L'émission, c'est mythe ou réalité. J'ai juste terminé intervenir en disant que le bonheur marital, c'est vraiment une réalité.
Un mythe ou une réalité?
L'émission, c'est...
Dans le bonheur.
C'est une réalité, c'est ça que je viens de dire. C'est vraiment une réalité.
Je plaisante.
Oui, c'est vraiment une réalité. Et des fois, enfant, on a internalisé des modèles idéaux qu'on a vus. Et parce que dans la réalité, voilà, nos blessures ont ressurgi dans le mariage. Et on s'est dit, bah, en fait, ça ne va jamais arriver. Et on se retracte dans ces blessures-là.
Mais le monde, c'est le mariage Rubik's Cube.
Voilà. Mais...
Ça, c'est le monde. C'est... Aujourd'hui, on est ensemble. Demain, on n'est plus là.
Il reste deux minutes. Mais je sens dans mon cœur, en tout cas, je vois une épouse qui, voilà, qui a eu les enfants et s'est dit peut-être c'est en ayant les enfants que j'aurai un certain bonheur. Les enfants sont là, le mari est là, mais il y a comme quelque chose qui bloque à l'intérieur d'elle-même. Et c'est pas le mari, c'est pas les enfants, c'est pas la maison, c'est soi-même en fait qui doit faire cette paix entre guillemets avec notre passé. Accepter le pardon de Dieu, accepter d'être changé ne veut pas, ça veut pas dire qu'on a oublié ce qui s'est passé, ça veut pas dire qu'on nie ce qui est arrivé, mais on choisit que à partir d'aujourd'hui, c'est une histoire nouvelle que moi j'écris pour ma propre vie. Et vraiment que le témoignage de Yanis, en fait, je crois que, oui, Yanis parle des hommes, mais je sens vraiment dans mon cœur qu'il y a des mamans qui se retrouvent là-dedans et qu'elles aussi doivent faire ce pas pour dire, oui, Seigneur, j'accepte de déposer ce fardeau et de partir, sachant que tu t'en
On doit dire aussi aux jeunes que, premièrement, les échecs, malheureusement, même si c'est triste, les échecs de vos parents ne sont pas vos échecs. Mm-hmm. Et ne construisez pas votre futur sur les échecs de vos parents. Ça sera pas bon. Et puis, d'être vraiment sage. Vous savez, moi, je vais vous dire, préservez-vous pour le Seigneur jusqu'au mariage. Peut-être vous êtes en train de me regarder, oh, il est vieux, il a les cheveux blancs, il dit n'importe quoi, c'est has-been, c'est ça? La parole de Dieu, elle est toujours d'actualité.
Amen.
Et aujourd'hui, on le voit, il y a beaucoup de jeunes qui n'écoutent pas Dieu. Par contre, elles vont se marier à l'église et vivent l'enfer sur la terre. Marie-toi selon les principes de Dieu. Attends le temps de Dieu afin vraiment d'être heureux dans ton mariage. Le mariage, c'est pour les bons, les mauvais jours, mais le mariage, il dure. Dieu ne sponsorise pas les divorces. Quand Dieu unit deux personnes, c'est jusqu'à l'éternité.
Et pour terminer, Nadine, est-ce que tu pourrais prier pour ces femmes qui portent le poids de leur passé? Et je crois que la guérison est disponible aujourd'hui.
Alléluia. Père de gloire, nous te bénissons parce que tu es le Dieu qui entend les prières. Merci Seigneur parce que tu es celui qui essuie nos larmes. Merci parce que ton œuvre à la croix était aussi pour guérir nos cœurs brisés. Seigneur, je viens devant toi avec les épouses qui pleurent sur les erreurs passées, qui n'arrivent pas, Seigneur Dieu, à construire un foyer solide parce qu'elles sont encore entrelacées, Seigneur, dans les fardeaux, dans les chaînes de leur passé. Mais je prie maintenant que vraiment un vent de consolation vienne et un vent de restauration, un vent de réconciliation dans les couples et dans les familles. Seigneur Dieu, je prie que ta lumière puisse s'éclairer, Seigneur Dieu, s'allumer dans le cœur de ces femmes afin qu'elles soient guéries de leur passé, guéries des erreurs passées, guéries des trahisons passées afin que maintenant elles soient ces épouses selon ton cœur, ces épouses selon ta parole. Seigneur, je prie que vraiment tu puisses toucher les cœurs des femmes qui se sont reconnues dans cette émission, qui ont dit « Oui, moi aussi, je veux déposer mes fardeaux à la croix et je ne veux plus reprendre mon fardeau, mais mon fardeau est enlevé de moi, il est enlevé dessus moi et vraiment, je marche dans la liberté, la pleine liberté que Dieu m'accorde. » Merci Seigneur parce que cette parole s'accomplit dans la vie de tes enfants et vraiment ta gloire, Seigneur, se manifeste dans le foyer de tout un chacun. Dans le nom de Jésus. Amen.
Amen. Merci Nadine et on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes sur emcitv.com.